Comment ça va être l'Irak d'après-guerre? Quel genre de scénario va être envisageable, pas tant peut-être politiquement, mais simplement militairement et au niveau, si on veut, des souffrances que va avoir la population irakienne. Et je pense notamment aux armes d'uranium appauvri. Apparemment que, bon, au Kosovo, quelque chose comme 4% des armes que les Américains ont utilisées étaient des armes qui contenaient l'uranium appauvri. Maintenant, dans cette guerre-ci, on parle de 80% des armes qui posséderaient des têtes à l'uranium appauvri. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va possiblement voir dans les 10, 20, 30 prochaines années des millions de personnes mourir des suites de cette catastrophe écologique-là?
Ben sûrement qu'on va en voir beaucoup. Au Kosovo, il y avait eu à peu près 25 tonnes en tout d'uranium appauvri d'utiliser, alors que en Irak, pendant la guerre du Golfe, ça avait été entre 300 et 800 tonnes,
Ouais.
donc beaucoup,
Faut
beaucoup
peut-être,
plus.
juste pour faire une parenthèse, l'uranium appauvri, évidemment, c'est des déchets, c'est des déchets radioactifs qui sont mis dans des bombes et donc utilisés par l'armée américaine pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'uranium appauvri.
Oui, ben en fait, on l'appelle appauvri parce que l'uranium qui est utile pour faire des bombes, des armes nucléaires ou dans les réacteurs, c'est de l'uranium enrichi. Alors, pour enrichir de l'uranium, il faut extraire un certain type d'uranium de l'ensemble du minerai. Et ce qui en reste est appauvri par rapport à ce qu'on a extrait qui enrichi. Mais en pratique, bon, c'est de l'uranium et c'est pas quelque chose qui est en soi épouvantablement dangereux. C'est utilisé pour renforcer la tête des armes, la tête des ogives, pour augmenter leur capacité de pénétration. Et le problème vient de là. C'est-à-dire que quand ça explose, ça devient une poussière absolument minuscule qui est inhalée, qui est ingérée donc dans le tube digestif, dans les voies respiratoires. Et là, ben, ça fait des particules radioactives dans l'organisme. Et ça produit des mutations, ça a augmenté les taux de cancer de 5 à 10 fois plus, les taux de leucémie, etc. Et donc, c'est clair que ça va faire la même chose encore et sur une plus haute échelle. Donc, à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe qui joue aussi sur l'agriculture, parce que le même genre de phénomène se produit sur les animaux d'élevage, etc. Et sur certaines cultures. Bon, nous, on importe illégalement des dattes, hein, irakiennes au Canada depuis 2 ans. Bon, on les a fait tester. Il semble pas que dans la façon dont les dattiers, si on veut, au niveau de leur organisme fonctionnent, il semble pas que ça ait des effets sur les fruits. Donc, c'est filtré, si on veut, organiquement. Mais ça, c'est variable d'une espèce à l'autre, d'une espèce de plante à l'autre, d'une espèce animale à l'autre. Et les effets chez les animaux sont assez semblables à ceux observés chez les humains. Et c'est pas seulement les Irakiens. Je veux dire, c'est surtout les Irakiens, c'est évident. Mais même tous les militaires britanniques, américains, etc., qui sont là, vont en subir les effets. Il y a plus que 8 000 soldats américains qui sont morts après la guerre du Golfe des suites de leur participation, et en bonne partie probablement dû à l'uranium appauvri. Puis il y a 150 000 soldats américains qui ont posé des demandes là, des demandes, si on veut, d'indemnisation pour incapacité totale ou partielle. Donc 150 000, presque le tiers, autrement dit, des soldats qui ont participé à la guerre du Golfe du côté américain ont fait ces demandes-là.
Ce qu'on appelait le syndrome de la guerre du Golfe.
Oui, qui est en partie lié possiblement à de l'intoxication chimique, en partie lié à des choses qu'on leur a données en vaccin et en partie lié à l'uranium appauvri. Faire la répartition des causes entre ces causes-là, ça demande des études plus spécifiques. Et on a interdit ces études-là à toute fin pratique. L'OMS n'est jamais allée en Irak étudier la part relative de ces différents impacts-là. Mais c'est connu que et la pollution chimique, l'intoxication chimique et la radioactivité peuvent, par exemple, faire augmenter les taux de leucémie, les taux de cancer, etc., chez les humains. Dans quelle proportion les facteurs jouent? Ben, ça, faut analyser les êtres humains pour ça. Faut voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur organisme, ils sont contaminés par quoi principalement. Et ça, ben, l'OMS a été empêchée de l'étudier pendant les dernières 12 années en Irak par les États-Unis.
Oui. Donc, quand même des retombées dont on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
Mais même à plus court terme que ça, je pense que là, je veux dire, à partir du moment où on bombarde les installations électriques, les systèmes de pompage pour l'eau, etc., je veux dire, la population va commencer en plus grand nombre à boire de l'eau contaminée, il va y avoir des épidémies de toutes sortes de maladies, choléra, typhoïdes, etc., qui vont se développer, comme à la première guerre du Golfe, en fin de compte. Il y a un système de distribution alimentaire qui était en place à cause du programme pétrole contre nourriture, qui n'est plus du tout fonctionnel maintenant. Bon, les États-Unis ont bien beau dire qu'ils vont distribuer de l'aide alimentaire, mais je veux dire, il y a 24 millions de personnes à nourrir, et en ce moment, ils sont en guerre. Ils ne sont pas en train de distribuer, des aliments. Les problèmes, c'est surtout au niveau de l'eau. Et ça, l'eau, c'est pas une affaire de... On ne peut pas manquer d'eau pendant 2 semaines. Hein. L'eau, c'est assez immédiat. Et donc, à partir du moment d'un moment où des larges populations vont être privées d'eau, ça peut mener à des catastrophes assez vite, à des mortalités en très, très grand nombre. Donc, ça, c'est dans l'immédiat. L'après-guerre, ça reste à voir. C'est-à-dire que on parle d'un système qui serait essentiellement américain, avec... des généraux à la tête, des ministres américains, des conseillers irakiens. Je pense qu'un tel gouvernement va être la cible de beaucoup, beaucoup d'attaques de la part de la population. Il va y avoir beaucoup de résistance. Et si on veut parler de l'après-guerre, ben, je veux dire, le mot qu'on commence à entendre beaucoup, c'est reconstruction, qui est un mot merveilleux. Ça a l'air tellement beau, la reconstruction. Ça a l'air tellement sympathique et... on va les aider. Leur pays a été détruit, entre guillemets, c'est présumé par Saddam, et nous, mais on va le reconstruire parce qu'on est gentil. En réalité, je veux dire, c'est l'arnaque totale. Je veux dire, ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on a une espèce de gouvernement colonial américain qui essaie de refaire fonctionner l'industrie pétrolière irakienne et a même les revenus de se payer à lui-même les contrats qu'il veut, au prix qu'il veut. Je veux dire, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'au meilleur candidat le contrat. C'est des contrats qui sont attribués comment? Ils se les attribuent eux-mêmes, à même des ressources qui ne leur appartiennent pas. Donc c'est carrément de vol dont il est question. On appelle ça la reconstruction. C'est un beau mot. Et quand les puissances comme la France et l'Allemagne disent qu'il faut que ça passe par les Nations Unies, bon, en pratique, ils veulent dire qu'il faut que ça passe par le Conseil de sécurité, puis... Il y a beaucoup à s'inquiéter. Est-ce que ça veut simplement dire qu'ils veulent leur part de la reconstruction eux aussi, c'est-à-dire des contrats décidés par des Américains à même des fonds irakiens? Au niveau québécois puis au niveau canadien, il y a un réseau pour la levée des sanctions qui existe depuis quelques années. Puis une des revendications, c'était d'admettre la responsabilité de nos pays dans la destruction de l'Irak et d'avoir des fonds de reconstruction dont le gouvernement irakien disposerait à sa guise et qui serait, si on veut, des fonds qui seraient levés dans les pays responsables de la destruction de l'Irak. Là, c'est pas de ça dont on parle du tout. On parle de reconstruire aux frais de l'Irak ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est du vol.
Oui. Ben, on va suivre ça dans les médias alternatifs qu'on a et dans les sources d'informations. Autre que les grands médias. Mais juste avant de terminer, Raymond Legault, j'aimerais ça que tu me parles de la prochaine manifestation qu'il va y avoir.
Oui, la prochaine manifestation est samedi le 12 avril. C'est à 13h le départ. En fait, il y a 2 points de départ, comme ça avait été le cas à la mi-mars. Il y a un point de départ qui est devant Radio-Canada sur le boulevard René-Lévesque. Donc, à peu près entre les rues Wolfe et Papineau. Il y a un autre point de départ qui est le carré Dominion. Et cette partie-là du trajet devrait se faire par la rue Sainte-Catherine plutôt que par René Lévesque. Et cette mobilisation-là, bon, vise encore le gouvernement canadien, c'est-à-dire dénoncer l'hypocrisie de sa position verbale, exiger le rapatriement des navires, le rapatriement des troupes, exiger aussi que le Canada gèle toutes ses exportations militaires face aux États-Unis. Le Canada exporte pour autour de 247 millions par année, je crois, en production militaire vers les États-Unis. Donc, c'est une participation pas négligeable. et demander que le Canada, avec d'autres pays, appelle une session spéciale des Nations Unies, de l'Assemblée générale, pour mettre fin à la guerre, exiger un cessez-le-feu et prendre des mesures là, pour le retrait des États-Unis. Évidemment, ça, c'est une demande, je dirais, assez grandiose, et puis c'est loin d'être acquis. Des pays comme la France, qui ont un pouvoir de veto et tout, ont pas osé présenter au Conseil de sécurité une résolution qui dirait on interdit une intervention militaire et on veut donner plus de temps aux inspections, par exemple. Ça aurait forcé les États-Unis à mettre leur veto et à révéler au grand jour leur isolement. Donc, ces puissances-là sont peut-être pas non plus intéressées à ce que l'Assemblée générale condamne les États-Unis. Mais c'est une possibilité, ça existe dans la Charte des Nations Unies, quand le Conseil de sécurité ne parvient pas à s'entendre. Donc, c'est une des demandes qu'on va faire aussi à cette manifestation-là.
D'accord. Ben, alors, rapidement, le samedi à...
Samedi, 13h, Carré-Dominion dans l'Ouest et devant la Société Radio-Canada sur René Lévesque dans l'Est.
D'accord. Ben, Raymond Legault, merci beaucoup.
Merci.